RFI, grand reportage,
Marie-Pierre Olfan.
Bonjour à tous. Grand reportage célèbre aujourd'hui les 10 ans de la mission militaire européenne Atalante déployée au large de la Somalie pour combattre la piraterie. Le phénomène a fait la une des journaux pendant plusieurs années. Des pirates prenaient d'assaut des navires marchands, des voiliers, voire parfois des super pétroliers. Ils enlevaient l'équipage et les échangeaient contre des rançons. Aujourd'hui, le nombre d'attaques a beaucoup baissé, mais les Européens déploient toujours 2 navires au large de la Somalie. Notre envoyé spécial a pu passer plusieurs jours à bord du bateau espagnol Castilla. Les pirates somaliens, un danger toujours présent. C'est un grand reportage de Sébastien Nemeth.
Bonjour, je suis le capitaine d'infanterie marine José Albert. Bienvenue au Castilla. Le Castilla, c'est un navire d'assaut amphibie. En tout, on compose cette fois 300 personnes. Maintenant, on est sur le pont, là où on contrôle presque toutes les opérations du navire.
Construit en 1999, le Castilla mesure 160 mètres de long et 48 de haut. Lourd de 13 000 tonnes, il peut atteindre une vitesse de 20 nœuds. Il est déployé depuis le mois d'août dans le cadre de l'opération Atalante. Depuis le poste de contrôle, les militaires espagnols viennent de repérer un bateau de pêche somalien. Un détachement va aller à leur rencontre en Zodiac dans le cadre d'une procédure appelée « Friendly Approach », l'approche amicale. Le lieutenant Junior Casado dirige l'équipe.
On va vous expliquer l'opération Atalante. Nous sommes là pour vous aider. Demandez-nous de l'aide quand vous voulez. Nous allons partager nos expériences. Quelles sont vos vies? Avez-vous vu des pirates en mer? Avez-vous eu des activités illégales? C'est aussi une façon pour nous de montrer notre présence. On patrouille près de la côte, on montre notre drapeau, notre navire de guerre. Tout cela dissuade.
Le contact avec les Somaliens est plutôt chaleureux. Le capitaine les invite à bord. Mokhtar Cheikh Abdoulaye vient de Mogadiscio et dans ses bras, il tient un requin-marteau pêché la veille.
On pêche du requin, du thon et un peu d'espadon. Tout est ramené à Mogadiscio. Mais on n'a pas de glace pour conserver nos poissons, donc ceux qu'on ne peut pas garder longtemps, on les échange en mer avec des bateaux qui nous donnent de la nourriture.
Quant aux pirates dans le golfe d'Aden, le pêcheur n'en a pas vu depuis plusieurs années.
Avant, en mer, les pirates abîmaient nos filets ou les volaient. Mais la situation s'est améliorée. On ne subit plus ça depuis la présence de l'armée. Je n'ai pas peur des bateaux d'Atalante, on les croise souvent. Mais on n'est pas des pirates, on est des pêcheurs. Donc on n'a rien à craindre. Avec eux, on se sent en sécurité. Mais si Atalante s'en va, les problèmes reviendront, c'est sûr.
Pour établir la confiance, les militaires d'Atalante donnent des cigarettes, des t-shirts, de l'eau. Un des pêcheurs se plaint d'un mal de dents. Javier Apia, le dentiste du Castilla, est alors dépêché pour improviser une consultation.
Il a une infection, je lui ai donné des antibiotiques et des antidouleurs. Il devrait être guéri d'ici une semaine. C'est la première fois que je fais ça. D'habitude, je soigne à bord des gens de l'équipage, mais ça fait partie de mon travail de soutenir les Somaliens ou toute personne qui en aurait besoin. Je suis dentiste, je veux apporter de l'aide aux gens, c'est mon travail.
À l'intérieur du Castilla, on trouve le centre opérationnel d'Atalante. Dans cette salle, 22 officiers de 7 nations européennes décident de toutes les actions en lien avec la piraterie. Le capitaine italien Riccardo Leoni dirige le briefing du jour.
C'est une zone d'accès restreint et c'est le cerveau de l'opération. D'ici, on surveille les navires vulnérables, on examine les informations pour planifier nos actions. Le climat, la position des autres forces, la position des navires marchands, selon où ils sont, on peut décider d'aller les escorter.
Pour avertir de son passage, chaque navire peut s'enregistrer auprès du centre maritime de la Corne de l'Afrique. Un logiciel analyse sa vulnérabilité et signale sa présence au Castilla. S'ajoute le système d'identification AIS installé sur chaque bateau et des mails automatiques envoyés toutes les 6 heures. À la moindre anomalie, le centre opérationnel se met en alerte. Riccardo Leoni.
Si le navire éteint son système d'identification, s'il change de cap, de vitesse, s'il zigzague, ce sont des comportements inhabituels. On essaie de voir qui est le plus proche pour vérifier. Ça peut être un de nos bateaux, celui d'une autre force dans la région, ou même un navire marchand. On les utilise très souvent car ils sont très nombreux. Sinon, on peut envoyer un avion pour survoler.
Mais le danger pirate existe-t-il toujours? En 2011, Atalante avait enregistré 176 attaques, 32 navires et 700 otages détenus. En 2015, tous ces chiffres sont tombés à zéro et depuis, le nombre d'attaques est minime. Néanmoins, pour le contre-amiral Alfonso Pérez de Nanclares, le commandant de la force, il faut rester vigilant.
La piraterie est contenue, il n'y a plus de navires détournés. Très probablement, les anciens pirates se sont tournés vers d'autres activités criminelles. Mais leurs intentions et leurs capacités sont toujours là. On l'a vu en 2017 avec plusieurs tentatives et dans deux cas, ils ont réussi à monter à bord. Mais ce n'est pas difficile pour eux de trouver des petits bateaux, une échelle et des armes. Donc les moyens matériels sont là, c'est sûr. Mais il leur manque l'opportunité. Et nous sommes là pour empêcher qu'une opportunité se présente.
Le mandat d'Atalante s'étend sur une région immense, le golfe d'Aden, le sud de la mer Rouge et une partie de l'océan Indien, soit près de 9 millions de kilomètres carrés. Pour surveiller une telle zone, deux avions patrouilleurs effectuent des rotations depuis Djibouti. Le Castilla, lui, transporte deux hélicoptères, des modèles américains SH-60 qui réalisent des sorties quotidiennes à la recherche d'éventuels pirates. Explication avec le commandant Carlos Rossano.
Notre outil principal est le radar. On peut repérer un navire à environ 240 km. Quand on est proche, on peut le suivre. Sinon, on peut le traquer. Il y a aussi quelqu'un à l'arrière qui prend des photos. Le comportement des bateaux et leur cargaison donnent beaucoup d'informations. Par exemple, si un bateau de pêche n'a pas de filet ou s'il transporte beaucoup d'essence pour rester longtemps en mer, c'est suspect.
Atalante est la seule force étrangère autorisée à entrer dans les eaux territoriales somaliennes. Selon le contre-amiral Alfonso Pérez de Nanclares, même si l'opération n'a que deux navires pour contrôler un espace aussi vaste, cela peut suffire.
C'est difficile, mais c'est possible. On reste proche de la côte. Certains pensent qu'il n'y a personne au large. Or, c'est faux. Il y a d'autres forces, comme la Combined Maritime Force américaine, ainsi que des marines nationales. Donc, on se coordonne avec elle.
Aujourd'hui, le Castilla est au large de Bosaso, dans le nord de la Somalie. Le navire va embarquer dans son ventre des bateaux construits par la FAO et destinés aux communautés côtières. C'est une première. L'opération est baptisée Hopper. Et pour cela, le bateau espagnol utilise sa capacité amphibie. Le capitaine Jesús Albert décrit la manœuvre.
On va recevoir trois bateaux de FAO. Deux de 8 mètres et un de 11 mètres. Ils vont rentrer dans la plage du navire et une fois qu'ils seront les trois à l'intérieur, on va fermer la porte et on va vider les tanks. La plage, elle va se dessécher, il y a tout l'eau qui va partir et les coques vont rester sur le sol de la plage.
Une fois la plage asséchée, l'équipe de la FAO prépare ses bateaux pour pouvoir les donner aux pêcheurs, des embarcations fabriquées avec des matériaux locaux pour que les Somaliens puissent les réparer ou les dupliquer eux-mêmes. Michael Savins, de l'organisation onusienne, présente le modèle long de 11 mètres.
Ça fait 2 ans et demi qu'on essaye d'amener ce nouveau type de bateau. Depuis la guerre civile, c'est la première fois qu'une embarcation d'un nouveau design est introduite en Somalie, alors que les choses ont beaucoup changé en 30 ans. La plus grande avancée, c'est qu'il a une capacité de stockage de 30 à 40% plus élevée. Le moteur consomme 2 fois moins d'essence, avec davantage d'activité, des jeunes capables de subvenir à leurs besoins au sein d'un circuit de pêche légal. Ils n'ont pas de raison de devenir des pirates. La piraterie est une conséquence du désespoir de la jeunesse.
Le lendemain, Michael Savins et son équipe font escale à Ourdillo, un village de pêcheurs situé sur la côte ouest dans l'état du Puntland. Le maire Ahmed Mohamed Abdi accueille l'équipe. Il raconte comment la localité a été victime des pirates.
Ils venaient d'autres régions et nous utilisaient comme une étape. Ils n'avaient pas de respect, ils prenaient de la nourriture par la force et retournaient en mer. Nous n'avons pas beaucoup de moyens ici. Les projets comme ceux de la FAO vont aider nos pêcheurs. Plus les habitants auront du travail et des revenus, moins ils seront tentés par la criminalité.
Aujourd'hui, Ourdillo vit en paix, sans la menace des pirates, et ses habitants espèrent améliorer leurs revenus légalement. La FAO leur livre un trimaran du jamais vu dans cette communauté de 1500 habitants. Michael Sevins leur donne un cours accéléré pour leur apprendre à dompter ce nouvel engin.
C'est la première fois qu'un navire de ce type va être mis à l'eau en Somalie. Il a été conçu pour pêcher de petites espèces pélagiques. Les poutres sont reliées à un balancier, c'est du jamais vu dans ce pays. Et je veux faire une démonstration aux pêcheurs, car ils ne sont pas sûrs de bien comprendre comment ça marche.
Afin d'améliorer l'économie locale, la FAO apprend également aux femmes de Ourdillo à couper et à faire sécher le poisson pour mieux le conserver. Idil Abdir Arman Issé, 23 ans, a suivi la formation il y a moins d'un an.
On découpe les poissons et on les expose au soleil avant de les vendre. Ça a changé ma vie. Avant, j'étais dans le village, je ne m'occupais pas de la pêche. Seuls les hommes préparaient le poisson et une partie pourrissait. Désormais, je connais les bonnes techniques.
Un savoir-faire très précieux dans cette région où trouver de la glace est très difficile. Youssouf Ali Youssouf de la FAO.
Avant, ils prenaient le poisson, mettaient de la glace dedans, l'exposaient au soleil et le stockaient encore humide. Il pourrissait très vite. Maintenant, ils le coupent en tranches et l'exposent pendant 2 jours. Ils peuvent ensuite soit le vendre, soit nourrir la famille avec. C'est une façon d'aider les communautés côtières isolées à survivre afin de combattre la piraterie.
Mais la communauté est face à d'autres défis. Tous les pêcheurs de Ourdillo se plaignent de la pêche illégale. Ramadan Saïd Mahmoud, 25 ans.
Ces navires prennent nos poissons. Ils volent les gros spécimens et il ne nous reste plus rien. Parfois, ils nous tirent dessus ou ils nous abordent et volent nos marchandises. C'est dangereux d'aller en mer. Mais on ne peut pas s'arrêter car on a besoin de nourrir notre famille.
Pour le maire de Ourdillo, la persistance de la pêche illégale est un sérieux problème car elle appauvrit les communautés et pourrait relancer la piraterie. Ahmed Mohamed Abdi.
La piraterie a commencé en réaction à la pêche illégale. Les gens étaient en colère de voir leurs poissons voler sous leurs yeux, alors ils ont voulu se venger. Mais après, c'est devenu secondaire pour eux, parce que le commerce des otages, ça leur rapportait beaucoup d'argent. Le phénomène s'est arrêté parce que le Puntland a monté une nouvelle force qui s'est attaquée à eux. Son action, combinée avec celle des Européens, ça a beaucoup fait baisser le nombre d'attaques. Aujourd'hui, les pirates ont disparu, mais les causes de la piraterie, elles, sont toujours là. La pêche illégale est toujours là. Les bateaux viennent d'Asie, de Thaïlande, d'Iran, du Pakistan et même de Corée. Donc si les Européens s'en vont, je pense que les pirates reviendront.
Selon les experts, les pêcheurs de Ourdillo collecteraient 2000 tonnes de poissons par an. Les navires étrangers illégaux en récupéreraient plus de 3000. À l'échelle nationale, le rapport passe de 63 000 tonnes pour les Somaliens à 107 000 pour les étrangers illégaux. Une concurrence déloyale et un phénomène constaté sur toute la côte. Plus au sud, des falaises ocres entourent Eyle et ses maisons de bois sur la plage. La localité donne l'impression d'un petit village endormi. Pourtant, il y a quelques années, Eyle était considéré comme le quartier général des pirates, grouillant d'hommes armés avec bateaux et équipages étrangers gardés en otage. Ahmed Ourouz Hanaf, un des anciens, se rappelle.
Les pirates venaient de tout le pays. Ils s'étaient installés ici, sachant qu'on ne pouvait pas se défendre. Grâce au rançon, ils buvaient, mangeaient du cat et se construisaient des maisons dans les grandes villes. Un jour, je les ai même vus s'entretuer dans le village à propos d'argent. On ne vivait plus normalement, on n'avait plus de dignité.
« Plusieurs années après le départ des pirates, Eyle a retrouvé son calme. Pourtant, la vie reste difficile, là encore, à cause de la pêche illégale. Goderi Moursal Mourset, habitant âgé de 35 ans, craint un retour de la piraterie.
Des bateaux étrangers nous rentrent dedans, volent notre matériel. Ils nous chassent si on s'approche. Ils sont armés et nous tirent dessus. Ils pêchent surtout la nuit et le lendemain, nous n'avons plus rien. C'est comme ça que la piraterie avait commencé. Tout ça pourrait recommencer.
Les forces du Puntland existent, mais leurs moyens sont dérisoires pour enrayer le phénomène. Mohamed Farah, commissaire de Eyle.
Le gouvernement fédéral a augmenté la pression, mais la pêche illégale persiste. Nous n'avons que deux petits bateaux assez lents. Nous essayons de renforcer nos moyens et si les pirates reviennent, nous pourrons les arrêter.
Si la plupart des gens ne semblent pas hostiles à Atalante, certains ne voient pas d'un bon œil la force européenne. Halima Jaelani a 38 ans, son visage se ferme en observant le Castilla. La présence de ses militaires près de son village réveille de mauvais souvenirs.
Ça s'est passé en 2011. Mon mari est parti à la pêche, il était très heureux. Quand j'ai vu qu'il était en retard, je suis allée sur la plage et son corps était là. J'étais très triste, je le suis toujours aujourd'hui. Un navire militaire a confondu son bateau avec un bateau pirate et ils ont tiré, ils ont tué trois pêcheurs. Mon mari avait deux balles dans la poitrine et une dans la bouche. Il s'appelait Dadrou Al-Nour, il avait 37 ans. Donc en voyant les soldats avec vous, je me sens en colère.
L'idéal serait qu'à terme les autorités somaliennes prennent le relais. Des projets pour instaurer des licences de pêche sont par exemple en cours, mais restent balbutiants et sont ralentis par des tensions entre l'État central et les États fédérés. Quant à la sécurité, il y a encore beaucoup de chemin à faire. Soudain, le Castilla se met en état d'alerte. Un navire marchand victime d'une attaque a lancé un signal de détresse réceptionné par le quartier général d'Atalante à Northwood, en Grande-Bretagne. Après avoir réuni les premières informations, le capitaine Ricardo Leoni vient exposer les faits.
Ok, messieurs, un point rapide sur ce qui s'est passé à 17h12. Cela ressemblait à une attaque contre un vraquier dans le bassin somalien à environ 300 000 nautiques à l'est de Mogadiscio. Un skiff a tiré sur le navire, qui avait une équipe de sécurité à bord, qui a tiré à son tour. Le skiff est parti, le capitaine du navire a confirmé que son équipage et son bateau étaient saufs.
L'attaque pirate contre le navire KSL Sydney, battant pavillon de Hong Kong, est confirmée. C'est la seconde tentative enregistrée cette année. Elle se solde par un nouvel échec pour les pirates. Pour autant, une intervention du Castilla n'est pas nécessaire. Il faudrait 24 heures au navire espagnol pour se rendre sur place et personne n'a été blessé ou pris en otage. Atalante décide d'envoyer un hélicoptère en reconnaissance. Ricardo Leoni.
Nous n'allons pas sur place. Nous n'avons pas les moyens humains pour être partout, mais nos yeux et nos oreilles sont partout. Vous avez vu, l'information nous parvient dans un temps très court. Le scénario de prise d'otage doit être évité en priorité, c'est le pire pour nous. Mais si ça arrive, évidemment, on se détourne vers le bateau attaqué, on reste proche de lui et on tente d'obtenir un maximum d'informations pour résoudre le problème.
Grâce au vol d'observation, le bateau pirate a été retrouvé, échoué sur une plage somalienne. Aucune trace des criminels, mais pour montrer leur fermeté, les militaires européens ont détruit l'embarcation à l'explosif. L'affaire du KSL Sydney montre à quel point les mesures prises par les navires civils sont importantes. Pour autant, avec la baisse du nombre d'attaques, l'amiral Alfonso Pérez de Nanclares constate une baisse de la vigilance.
Nous voyons des comportements inquiétants. Certains se mettent à prendre des chemins moins sûrs. On voit aussi des navires baisser la garde et moins appliquer les mesures de sécurité.
L'attaque contre le KSL Sydney montre que le phénomène pirate reste menaçant sur les côtes somaliennes. L'Union européenne a d'ailleurs prolongé la mission Atalante jusqu'en 2020. Intégré à l'opération en août dernier, le Castilla termine, lui, sa mission ce mois-ci. Alors que l'opération européenne fête ses 10 ans, il sera remplacé par le Relámpago, un navire de patrouille espagnol déjà utilisé à 3 reprises dans la lutte contre la piraterie. Les pirates somaliens, un danger toujours présent. Un grand reportage de Sébastien Nemeth, réalisation Eva Piedel.